Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et alors là, c'est vraiment la grande émission, puisqu'on est à quelques heures, un peu moins, de Kippour, et nous sommes en ligne avec le Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Lemel et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors je vous dis Shabbat Shalom sans embâche, parce qu'on m'a appris, d'ailleurs vous faites partie de ceux qui me l'avaient enseigné, que Kippour c'est une fête, donc c'est un moment qu'il ne faut pas prendre comme un moment de deuil, pas du tout. C'est pour ça que les séfarades chantent par exemple avec joie, parce que c'est un moment où on rencontre Hachem. Mais si vous avez une autre définition, vous me le dites. Surtout que vous, ce soir, vous avez envie de nous prendre à contre-pied. Parce que vous n'avez pas envie de nous... Enfin, vous n'avez pas pris de la... Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas fait le choix de nous parler de l'obligation de ne pas manger, mais de l'obligation de manger. Parce qu'on oublie souvent. Mais la veille de Kippour, le repas de la veille de Kippour, d'ailleurs, il y en a au moins deux, il y en a qu'un point de plus, c'est une obligation. C'est une mitzvah. Et certains même disent qu'elle est aussi importante que... le jeûne en soi, et il y a aussi le vidouille, le reconnaître ses torts, reconnaître ses fautes. Alors on vous écoute.
Exact, on sait qu'il y a en effet une mitzvah de la Torah de manger, et c'est pas certains disent, je vous prie de m'excuser, mais tout le monde dit qu'en effet, nos maîtres disent qu'en effet, le fait de consommer la veille de Kippour, de manger la veille de Kippour, correspond exactement au jeûne de Kippour. Alors, qu'on soit bien clair, ce n'est pas parce qu'on a mangé la veille qu'on ne va pas jeûner. Il y a deux mitzvot distinctes, celle de manger la veille et celle de jeûner. Alors évidemment, la question est la suivante, si nous devons jeûner, évidemment qu'on va manger. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de nous le dire? Au fond, il y a bien sûr ici plusieurs lectures, mais la lecture la plus simple et au fond la plus capitale à mon sens, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est la volonté de Dieu. Et le judaïsme n'est pas une religion doloriste. On n'est pas là pour dire, bon, il va falloir souffrir, et comment on va souffrir, alors ça va bien se passer. Pas du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on accomplit le ratson Hachem, la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, c'est que le dit tishri, eh bien, on jeûne. On ne met pas de chaussures en cuir, on ne se lave pas, on n'a pas de relation de couple, pas de relation conjugale, donc voilà, c'est la mitzvah. Et la veille, ben, il y a une autre mitzvah, c'est celle de manger. Et dans les deux cas, on accomplit la volonté d'Hachem. Et donc, dans les deux cas, quelque part, eh bien, on a montré que ce qui était fondamental pour nous, c'est être à l'écoute de la parole divine. Ça, c'est déjà une première notion, mais qui est capitale. On raconte sur un des rabbeim de Belz, qu'un soir de Kippour, le médecin lui a ordonné de manger. Donc, imaginons, on est après Kol Nidre, il va manger. Le rabbi, un rebbe, un grand maître, et les élèves qui sont là, qui sont à ses côtés, qui le voient manger, avec la même joie qu'il a de manger la matzah le soir de Pessah. Le soir de Pessah, c'est un grand bonheur de pouvoir manger cette matzah. Mais là, il est content. Pourquoi? Parce que Dieu qui a dit qu'il faut jeûner Kippour, a dit que quand un médecin considère qu'au niveau de la santé, il faut manger Kippour, eh bien, c'est la volonté de Dieu. Donc, il accomplit ici une mitzvah, un commandement. Et c'est déjà ici une première notion qui est fondamentale. C'est-à-dire se rappeler que l'enjeu, c'est d'accomplir le Ratzon Hashem, la volonté de Dieu. Une seconde lecture, un peu plus chassidique, on sait que le jeûne, c'est une forme de sacrifice que l'on apporte sur l'autel, puisqu'on donne un petit peu de sa graisse, de son sang. Enfin voilà, il y a des particules qui disparaissent parce que tout simplement, on jeûne. Et des maîtres disent cette chose qui est très belle, ils disent « si la veille, nous avons mangé, mais non pas parce qu'il faut manger, mais parce que c'est une mitzvah. » Alors, entre guillemets, la dimension de cette partie de nous qui va disparaître le jour de Kippour, ce qu'on a ingéré, a une dimension sacrée, puisqu'on l'a ingéré parce que c'était une mitzvah. Et donc, on amène un petit peu sur l'autel des sacrifices cette partie de nous-mêmes qui la veille a été consommée en tant que mitzvah. Voilà, ça c'est une seconde lecture un peu plus racidique, mais que je trouve très jolie. Et puis après, il y a la mitzvah de vidouille. cette mitzvah de vidouille, c'est-à-dire de se confesser, on va devoir la faire à Mincha, c'est-à-dire dans la prière de l'après-midi. On va donc dire tout ce texte dans lequel nous reconnaissons les fautes qu'on a pu faire. Et puis, beaucoup ont l'habitude aussi, juste avant l'entrée de Kippour, de refaire la même chose, mais à travers un autre texte que l'on appelle Tefila Zaka. Cette prière est une prière qui a été créée par un maître qui s'appelle le Chaye. Elle se retrouve dans le Chaye Adam, et elle est dans bon nombre de livres de prière, dans lesquels, sous une forme différente, mais avec la même idée, le même concept, eh bien, on se repentit. Alors, la question elle est la suivante. C'est quoi cette histoire de mitzvah, de commandement, d'obligation de faire le vidouille? On nous oblige à nous repentir. Beaucoup de personnes diraient, bon, ben, la repentance, c'est l'idée d'un ressenti, oui, non, et puis si je considère que ce n'est pas si grave, alors pourquoi je devrais me repentir? Alors, pour mieux comprendre ça, tout d'abord, se rappeler qu'il faut rentrer dans Kippour en état de repentance. On va essayer de mieux comprendre ce qui se joue là-bas. Il y a un texte du Talmud qui nous rapporte l'histoire de cet homme qui s'appelait Gehazi, qui était quelqu'un d'extrêmement élevé, mais qui à un moment va prendre un chemin qui n'est vraiment pas le bon. Et le texte nous dit dans le Tanakh que Vayavo Elisha Damasek, le prophète Élisée, qui est l'élève par excellence du prophète Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, va à Damas et dit, non maître, il va là-bas pour quoi faire? Pour récupérer Gehazi, pour essayer de l'amener à se repentir. Et la phrase qu'il lui adresse, elle est très intéressante. Quand il le voit, il ne lui dit pas « repens-toi », il lui dit « chazor becha ».« Chazor becha », ce qui veut dire « rentre à l'intérieur de toi-même ». Et on a ici, à travers ces deux mots, l'élément essentiel et clé pour pouvoir entreprendre cette démarche de tshuva, que ce soit dans les dysfonctionnements qu'on a pu avoir dans le rapport à Dieu ou dans le rapport à l'autre. Repénétrer l'intérieur de soi-même, c'est s'interroger et se dire « mais au fond, pourquoi je fais cela ?» ou « pourquoi je ne veux pas faire cela ?» Quand une personne ne met pas les téfilines, eh bien, faire tchouva, ce n'est pas se dire « bon, je vais les mettre, c'est sûr que c'est bien les mettre », mais se dire aussi « mais pourquoi je ne veux pas les mettre ? Pourquoi je ne veux pas ? Pourquoi non ?» Ou alors « pourquoi je cède à telle et telle chose ? Pourquoi je cède à cette colère ? Pourquoi je cède à ces pulsions ? Qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui fait que la parole divine n'est pas suffisamment forte pour m'aider à me dépasser par rapport à des choses dont je suis convaincu. Vous savez, si vous rencontrez une personne qui, allez, on va dire, est en train de manger quelque chose qui n'est pas spécifiquement kasher, et que vous lui demandez au même moment de prendre un Sefer Torah, un livre de la Torah et de le jeter par terre, évidemment qu'elle ne le fera jamais, même si elle n'est pas vraiment pratiquante. Pourquoi ? Ben parce que ce n'est pas possible. Mais au fond, et évidemment, il faut l'entendre au second degré, sinon ça serait très lourd, mais au fond, quelque part, à travers ce qu'elle vient de faire, elle montre qu'elle ne tient pas compte de ce que ce livre est en train de lui dire, puisque c'est dans ce même livre qu'elle respecte qu'il y a marqué. Alors bien sûr, c'est notre histoire à tous. Ce que je vous raconte, c'est notre histoire, chacun dans un autre domaine. Mais c'est notre histoire à tous, notre histoire eh bien, d'être humain. Et d'ailleurs, on va le dire le jour de Kippour à Dieu, on va dire, Emmet, au fond, c'est toi qui nous as façonnés, tu sais très bien comment on fonctionne. Et l'attention vers la cohérence, c'est tout un travail de vie. Mais le chazor becha, rentre à l'intérieur de toi-même, interroge-toi. Pourquoi tu es dans le refus? Pourquoi tu es dans le déni? Pourquoi au fond tu ne veux pas progresser? Pourquoi on ne veut pas sortir de nos zones de confort? Et là, je me permets quand même de faire une petite parenthèse que j'ai peut-être fait déjà dans une émission, mais c'est pas grave, je la refais quand même. Vous savez, nos frères, nos sœurs se battent. Et quelque part, ils se dépassent et c'est inimaginable. Mais s'ils viennent maintenant nous voir dans nos synagogues, jour de Kippour, et nous disent, on va prendre un soldat qui est au front, qui dit, moi, ça fait 2 mois que je ne prends pas de douche, ou 2 semaines, ou 3 semaines, je mange quasiment rien, ou pas des choses que j'aime, évidemment, on dort comme on peut et on ne sait pas comment la journée va se passer. Et vous, c'est quoi vos efforts? C'est quoi vos efforts? Alors bien sûr, on va répondre, et c'est bien, et c'est positif, et c'est une bonne chose. Beaucoup sont partis aider à cueillir des tomates, à faire des choses, et c'est une bonne chose, et c'est un acte extraordinaire. Il faut continuer à le faire. Beaucoup ont donné de leur argent. Certains ont pensé qu'il fallait relayer des vidéos sur Internet. Sur ça, déjà, il faut se poser la question de l'impact, mais ce n'est pas le sujet. Mais c'est quoi un vrai effort? C'est quand on sort de sa zone de confort. C'est-à-dire de se dire, mais au fond, pourquoi je ne ferai pas un petit peu plus spirituellement cette année? Pourquoi je ne donne pas à nos frères et à nos sœurs un élément supplémentaire, un effort, un dépassement? Mais pour réussir à le faire, parfois, il faut s'interroger sur mais pourquoi on ne veut pas ou pourquoi c'est difficile. Et de manière très fluide, très sereine, très tranquille, parce que vous savez, le jour de Kippour, c'est Gilou Bir Hada, danser dans le tremblement, exulter dans le tremblement. Cette joie profonde que nous devons ressentir, que tout est ouvert, tout est ouvert, tout est ouvert. Et que Dieu, à l'image d'un Père aimant, n'attend qu'une chose, c'est qu'on se précipite dans ses bras. Parce que c'est là, dans cette proximité, qu'on sera le plus protégé, qu'on se sentira le mieux. Revenir, comme on l'a vu dans la Haftara, dans le texte qu'on a lu dans les synagogues la semaine dernière, à Hashem Elokecha, jusque vers Dieu. Et donc, en même temps, ce tremblement, de par le fait qu'on prend la mesure de ce qui se joue, mais en même temps, de cette confiance profonde que si nous essayons d'être dans une démarche de sincérité, même si nous savons que la constance ne sera peut-être pas toujours au rendez-vous, mais néanmoins. Et sur cela, eh bien, on peut faire quelque chose de très simple. Et tous les maîtres de l'école du Moussard nous le disent. Prendre sur soi un petit quelque chose, faire une bénédiction par jour, faire modéani, essayer de faire un tout petit peu plus attention à manger kasher, mettre les téfilines, faire le schéma Israël, prendre ces choses-là et être dans la constance. Mais, et je ne peux pas m'empêcher de ne pas dire cela, rappelons-nous cet élément fondamental aussi que Rav Israël Salanter, maître du Moussard, nous rappelle à travers ce texte du Talmud, Kolam avir al midotav mavirim lo al kol peshav, ce qui veut dire tout celui qui est capable de se dépasser, Dieu dépasse et met de côté ses fautes. De quoi s'agit-il? Nos maîtres expliquent et disent que c'est très simple. Le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, où les choses vont encore se jouer, évidemment, eh bien Dieu dit, je ne sais pas comment te juger. Je ne sais pas comment je dois regarder ce que tu as fait. Alors c'est très simple, donne-moi toi la clé du jugement. Comment cela? Eh bien, Dieu regarde chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, et se dit, mais quand quelqu'un agit mal par rapport à toi, comment est-ce que tu fonctionnes? Tu cherches à te venger? Tu cherches à lui faire du mal? Ou tu es prêt à lui pardonner? Alors bien sûr, la personne qui en est à sa quatrième tentative de meurtre, bon, oui, d'accord, ça sera peut-être un peu compliqué, mais de manière générale, dans les relations interpersonnelles, les conflits familiaux, les conflits entre associés, les conflits entre personnes, ou quelqu'un qui en est fait un moment a vraiment mal agi, ou il a fait quelque chose de pas très sympa. Surtout si cette personne vient et te demande pardon. Tu es prêt à pardonner facilement, à dire c'est bon, on va avancer à nouveau. Bien de dire voilà, j'attends de voir comment toi, tu as envie d'avancer dans cette dynamique du pardon dans la relation aux autres, vis-à-vis de ton conjoint, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis de toutes ces personnes que tu rencontres. Surtout, 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 s'ils t'ont demandé pardon réellement et qu'ils regrettent réellement. Et si tu considères que quand quelqu'un te demande pardon et regrette réellement, il faut lui dire « Eh bien, c'est bon, on avance. » Eh bien, évidemment que je ne peux faire que la même chose par rapport à toi. Voilà aussi cet élément qu'il ne faut absolument pas oublier parce qu'il est capital et c'est un élément qu'on doit bien ancrer à l'intérieur de nous. Il n'est pas simple, mais vous savez, c'est un réel bonheur de voir qu'on arrive à se dépasser. C'est un réel bonheur de voir qu'on arrive à progresser. C'est un réel bonheur que de vivre pleinement ce que veut dire être juif, dans ce jour, on est tous ensemble, et que l'on puisse véritablement, non pas juste le dire, mais le vivre, l'accomplir de la plus belle manière qui soit, afin que, Bezrat Hashem, eh bien, l'année qui est en train de s'ouvrir, qui s'ouvre maintenant, soit une année qui s'ouvre vers des perspectives merveilleuses chez tout le monde, de manière individuelle et au niveau collectif pour le clan d'Israël.
Amen, amen. Bah écoutez, une année de paix qui peut aussi s'appeler de plénitude, c'est avec votre permission. Et pour ça, il faut effectivement faire l'effort d'aller voir l'autre, de se dire la vérité à soi aussi. Ravili Lemel, je vous remercie. Et je vous souhaite à la fois Shabbat Shalom, et puis c'est le plus grand des Shabbats, paraît-il, de bonnes fêtes de Kippour. Et bonne fête de Kippour, Shabbat Shalom, Rav.
Shabbat Shalom et Gmar Hatima Tova. Que nous n'entendions que d'excellentes nouvelles, Bezrat Hashem.
Amen, de manière découverte. Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai et Shabbat Shalom.
Shabbat shalom et surtout tiskul shirim rabot nimod tovot.
Amen.
Les attachements de Fatima Torah. Que Hachem nous signe tous dans le livre de la vie, dans le livre de la vie.
Amen. Là, franchement, c'est nous qui vous souhaitons un Kippour en paix. Vous êtes à Jérusalem avec beaucoup de nachat ruach. Savoir que Kippour, c'est pas une fête, contrairement à ce qu'on croit, triste. C'est un moment de, on rencontre Dieu. C'est pour ça que les séfarades, ils chantent. C'est parce qu'on est heureux. Et donc, on vous souhaite vraiment la possibilité d'avoir un beau Kippour. Et je le répète, hein, c'est pas triste, Kippour. Je crois, hein, je parle sous votre contrôle, je suis pas, j'ai pas votre, votre érudition. Reste que, on va dire, durant cette belle journée de Yom Kippour, qu'il y a 13 attributs de miséricorde. Dieu a 13 attributs de miséricorde. Mais là, quelque chose d'étonnant dans la relation qu'on connaît bien entre nous et Dieu, c'est que si nous, on n'en est pas capable, évidemment, à son niveau, on n'y arrivera jamais. Mais si nous, on n'est pas capable d'intégrer, on n'est pas capable au moins d'essayer, sinon on n'est pas capable de le faire, ben lui, il ne le fait pas. En tout cas pour nous. Alors, ben on vous écoute, hein, Rav Mordechai, habitons à Jéru.
Regardez, dans la Gemara Rosh Hashanah, la page 17b, le texte est rapporté de la manière suivante, c'est très intéressant. La Gemara va explorer donc ce texte dans lequel Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, sache que quand les Israël vont fauter, s'ils invoquent les 13 attributs de miséricorde par lesquels je fais preuve de miséricorde vis-à-vis de toutes les créatures, je pardonne. Alors, la Gemara dit la chose suivante. Marqué, va y avoir Hachem al-Panav. Hachem, il est passé en quelque sorte sur la face de Moïse. Alors, Hachem, qu'est-ce que ça veut dire Hachem? Il y a eu un dévoilement divin à ce moment-là. En quelque sorte, à Moshe Rabbeinu a été délivré une espèce de dévoilement divin et surtout une meilleure compréhension de la manière dont Hachem intervient dans le monde. Et là, vient Rabbi Yochanan, il va dire la chose suivante. S'il n'y avait pas un verset explicite pour nous le dire, on n'aurait jamais pu dire une chose pareille. Et la Gemara continue. Elle dit, c'est comme si Dieu lui-même s'était enveloppé d'un talit, comme un officiant dans une synagogue, en quelque sorte, et il a montré à Moshe Rabbeinu l'ordonnancement et l'ordre de la fila. Et il lui a dit, sache une chose, Amarlo, kol zman shi'Israel chotim, chaque fois que Israël faute, que les Juifs fautent, il y a sous les fanaïques qui s'est dérasé, Bani Mochelem, qu'il fasse comme cet ordonnancement que je viens de te montrer, c'est-à-dire d'invoquer les 13 attributs de miséricorde, Hachem, Hachem, Kel, Rahum, tu es Rahum, tu es miséricordieux, Hanoun, gracieux, etc., dans lesquels on déroule donc ces attributs de miséricorde, et Hachem dit, je pardonnerai. C'est-à-dire que c'est une prière qui amènera le pardon. Elle amènera le pardon pour Amisraël. Alors, les commentateurs se sont penchés sur ce texte. Et surtout sur la formulation. Et le Al-Sheikh HaKadosh, qui est un des auteurs kabbalistiques connus, va dire d'abord la chose suivante. Il va dire, il faut ici être précis. Quand Hachem s'adresse à Rabbi Yochanan, rapporte cet enseignement, il dit que les Bnei Israël feront. C'est pas marqué qu'ils diront. Ce verset-là, ça ne suffit pas de dire, d'invoquer verbalement ces attributs de miséricorde. Il faut qu'ils le fassent. C'est ce que l'Agma vient nous dire ici dans donc le Rosh Hashanah, page 17b. Il faut que les Béné Israël, pour qu'ils obtiennent le pardon, il faut qu'ils soient capables de faire ce que moi je fais. Par exemple, dans ces 13 attributs de miséricorde, c'est marqué « Ma'avir al-Pesha ». C'est marqué tout celui, par exemple, on demande à Hachem de passer sur les rébellions. Est-ce que nous, on est capable de passer sur les rébellions? Nous, on peut passer sur des fautes de comportement, on va dire, exceptionnelles, ou des fautes de comportement de la part de personnes dont on pense qu'ils n'ont pas toute leur tête ou qu'ils font un peu n'importe quoi. Mais est-ce qu'on arrive à passer sur des fautes de comportement de gens qui sont insultants et qui, en quelque sorte, nous avilissent et en quelque sorte, ces gens se comportent vis-à-vis de nous comme si on n'existait pas? En fait, ils veulent nous rayer de la carte. Et Hachem, il dit, moi, c'est ce qui m'arrive dans le monde. Les gens veulent me rayer de la carte, comme si je n'étais pas là, comme s'il n'y avait pas de Dieu qui mène le monde, comme si je n'avais pas créé le monde et comme si ce n'était pas moi qui conduisais à chaque instant. Des gens qui pensent qu'ils tiennent le volant de l'histoire, de leur histoire individuelle et collective, c'est eux qui tiennent tout et il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a ni Dieu ni maître. Et moi, je pardonne. Pourquoi? Parce que je ne peux pardonner qu'à celui qui, lorsqu'il est dans cette situation, il va être aussi capable de faire cette chose-là. Quelqu'un m'a rapporté une histoire de Rav Elbaz, le Rosh Yeshiva de Or HaChaim. C'est très connu, c'est la grande yeshiva, le gros groupe de Baal et Tshuva ici à Jérusalem. Il y a un homme qui a dû le voir, il lui a dit, je ne peux pas pardonner une offense qui m'a été faite, telle qu'elle m'a été faite, je ne peux pas la pardonner. Alors, il lui a dit, écoute, tu as tout à fait raison, tu ne veux pas pardonner, il n'y a aucun problème. Et sache une chose, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit par ta faute. Et c'est très intéressant parce que on a tendance à considérer que finalement le pardon, c'est une option. Mais ici, ce qu'il nous est dit, c'est que c'est une obligation. Si on veut arriver à obtenir un pardon d'Hachem, il faut que nous-mêmes, on soit capable de faire, on doit être capable de faire preuve de grandeur d'âme et de pardonner et d'ouvrir notre cœur. Alors évidemment, il y a des règles à ça. Les gens qui ne demandent pas pardon et qui ne veulent pas demander pardon et qui n'ont aucun intérêt à demander pardon, on peut, disons, en quelque sorte, créer une réserve de pardon en disant, si cette personne un jour me demande pardon, je lui pardonnerai. On peut aussi faire preuve de grandeur d'âme et dire, quoi qu'il arrive, je lui pardonne. Mais si cette personne vient demander pardon, alors là s'applique une règle fondamentale et qui est marquée dans les halakhot et que Rav Boyer, Rav Moshe Boyer, c'est un monsieur qui fait beaucoup de travail ici sur les traitements psychologiques dans les familles et sur les individus, a magnifiquement expliqué. Dans la halakha, il est écrit que si quelqu'un va demander pardon, on ne doit pas être arzari, on ne doit pas être cruel de ne pas lui pardonner. Ça, c'est la traduction directe. En fait, il y a un double sens ici. On ne doit pas être cruel en refusant de pardonner, mais on ne doit pas être non plus cruel quand on pardonne. Ça veut dire que si je pardonne, je dois donner à l'autre ce qu'on appelle une argasha tova, je dois donner une bonne sensation. Ce n'est pas « je te pardonne parce que tu es un pauvre type ». Et puis bon, non, je te pardonne de bon cœur, et ok, c'est très bien, c'est complètement effacé entre nous, on laisse ça de côté, et voilà, et puis je présume que voilà, ça aurait pu m'arriver à moi aussi, puisque tu l'as fait parce que tu étais dans un certain état d'esprit, mais voilà, non, je suis capable d'oublier. Donc il y a ici cette règle-là qui est une règle fondamentale. Finalement, ce qui est en jeu à Kippour, et c'est fondamental de le comprendre, c'est qu'on ne peut pas demander objectivement un pardon qu'on n'est pas capable d'accorder, ou en tout cas qu'on ne se prépare pas à accorder. Ça, c'est tout à fait fondamental. Donc voilà, avant Kippour, il faut aller s'arranger les uns avec les autres. Il est temps de s'arranger les uns avec les autres, toutes celles et tous ceux qui ont à s'arranger entre eux le fassent. Il reste encore 48 heures. Et Bezrat Hashem, que ce soit une occasion de se retrouver tous unis devant Hashem, et que cette unité, cette teshuva, elle puisse nous amener la Géoula, parce que finalement, comme on le voit tout au long de la Torah et dans les textes de la Torah écrite, la Torah orale, finalement, le fond de l'histoire, c'est que cette unité, cette teshuva, elle est faite pour nous amener la délivrance personnelle et la délivrance collective totale. C'est ce qu'on demande. Voilà, dans Bezrat Hashem, qu'on mérite tout ça.
Rav Mordechai Biton, sous votre contrôle de nouveau, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que Kippour, c'est un moment où au moins on essaye, où au moins on montre. On ne dit pas, mais non, ce n'est pas pour moi. Voilà, très important, on ne dit pas, ce n'est pas pour moi. Parce qu'on demande pas, on nous demande pas d'avoir le pardon de Dieu. Mais par contre, on peut être plein, on peut être intègre. Essayer. Ne pas se dire, je vais à Kippour, ça ne sert à rien, ce n'est pas pour moi. Je sais bien que je ne suis pas pratiquant, je vais rester dehors à la synagogue, je vais même pas, j'y vais. Ce n'est pas ça Kippour, je parle sous votre contrôle. Et la deuxième chose, c'est que, avec ce que vous venez de nous dire, quelque chose de très simple, c'est que ceux qui savent, en vous écoutant maintenant, ils vont écouter dans une minute la dracha de Rav Gay, et après, on peut appeler. Et si on sent que c'est dur de dire pardon, rien que le fait d'appeler, l'autre, il a compris. Donc on peut faire ça avant Kippour. Tout le monde fait ça avant Kippour. Ça fait des millénaires que les Juifs font ça avant Kippour. Appelle-le. Même si tu ne dis pas pardon, tu n'y arrives pas. C'est mieux de lui dire. Mais sinon, appelle-le. Rav Mordechai Biton, je pense que vous êtes d'accord avec moi.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. On vit dans un monde dans lequel la moindre petite action, c'est une redondance, mais c'est ça, c'est le moindre effort qu'on fait, dans le ciel, il donne. Et il faut savoir qu'à Kippour, c'est le moment où toutes les fenêtres sont ouvertes. Ouais. Donc, ne reculez devant aucune bonté. Ça fait du bien à tout le monde.
Très bien. Et faites-le aussi pour Israël, parce qu'on sait très bien qu'on a été très mal par rapport à cette haine qui s'était développée. Faites-le aussi pour Israël. Rav Mordechai Biton, merci. Shabbat shalom. Et Tzom Kaal, plein de belles choses, plein de journées de pardon. C'est beau quand on sait qu'on rentre comme ça dans le pardon. C'est magnifique. Bonsoir à vous. Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Petit souhait, j'ai ma pote.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom et bonne fête.
Shabbat Shalom et Shana Tova, Khatima Tova à tout le clan d'Israël.
Amen, à plein de choses là. Alors Rav Gueh, vous voulez intervenir ce soir sur un point particulier, c'est une affirmation de Rabbi Akiva, un enseignement de Rabbi Akiva qui dit « Heureux le peuple qui a rendez-vous avec Hachem », bon, j'espère que je traduis correctement, mais vous le ferez mieux que moi. Et c'est, voilà, par exemple, souvent, quand on était petit, on faisait Kippour, bah, c'est comme si on déchire sa chemise, quoi. Non, pas du tout, on a rendez-vous avec Dieu, c'est... Alors vous allez nous expliquer ça, et on vous écoute avec beaucoup d'intérêt.
Alors effectivement, nous avons un traité talmudique, un Maseret, qui s'appelle Maseret Yoma. Alors Yoma, c'est un mot araméen qui veut dire le jour, comme Yom, Yoma. Le jour, donc le jour de l'année, c'est évidemment Kippour. Et donc ce traité se termine par l'intervention de Rabbi Akiva. Il est vraiment dans les dernières lignes de la Mishnah Yoma. Et il dit la chose suivante. Amar Rabbi Akiva Ashrechem Israël. Vous avez de la chance Israël. Vous pouvez être heureux Israël. Ifnemi atem et taharim. Devant qui vous vous purifiez? Mi metaheretrem, qui vous purifie? Avichem shebashamaim, votre Père qui est dans les cieux. Shenemar vezarakti alechem maim torim utaharatem. Il projettera sur vous de l'eau pure, on parle de l'eau lustrale, et vous serez purifiés. Veomer mikve Israël Hashem, mikve metaheret atmeim, afakadosh baruchu metaheret Israël. De la même façon que le mikve purifie ceux qui sont impurs, ainsi akadosh baruchu, le Saint béni soit-il, purifie Israël. Voilà les derniers mots du traité de Yoma, donc le repas de Yoma est consacré à Yom Kippour. Alors, j'ai vu qu'on faisait une comparaison, enfin un lien, entre Rabbi Akiva qui intervient ici, et Rabbi Akiva qui est rapporté à la fin de Maseret Makot. Dans le traité Makot, il y a une fameuse discussion entre Rabbi Akiva et ses amis, lorsqu'ils font une visite sur le lieu du Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le lieu du Temple. Et on voit les amis de Rabbi Akiva pleurer parce qu'ils voient un renard sortir du lieu où il y avait le Saint des Saints. Alors que Rabbi Akiva, lorsqu'il voit cela, il rigole, il metzachek. Et une discussion s'engage entre Rabbi Akiva qui rit et ses amis qui pleurent. Et finalement, la conclusion, c'est Akiva Nechamtano. Tu nous as consolé, Akiva. En fait, le Rav Moshe Shapira fait remarquer que ce n'est pas par hasard que c'est Rabbi Akiva qui intervient à la fin de Maseret Yoma, qui, je vous le rappelle, est une Maseret, un traité consacré à Yom Kippour, mais qui surtout décrit le Kippour de l'époque du Temple. Lorsque le Temple était en place, il y avait le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui œuvrait ce jour-là, lui seul, et il devait faire un certain nombre de sacrifices, et en particulier le Sa'ir la'Azazel et le Sa'ir la'Shem, les deux boucs qui étaient l'un consacré à une aspersion dans le Saint des Saints, et l'autre qui devait être jeté d'une montagne dans le désert, et démembré. Effectivement, donc ce moment très important, et puis de plein d'autres, voyez un fil rouge, une langue rouge qui était donc de tissu, qui se transformait en blanc lorsque la purification d'Israël était complète. Donc lorsqu'on est comme Rabbi Akiva et qu'on a constaté la destruction, on est à l'époque de la destruction du Temple, on se demande finalement, on va s'y prendre comment, maintenant qu'il n'y a plus de Temple, il n'y a plus de Kohen Gadol, il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Akiva dit, « Ashrechem Israël, malgré la destruction du Temple, vous avez de la chance Israël, parce que vous vous purifiez devant Hachem. Hachem va vous purifier. Soit il va vous jeter sur vous, asperger sur vous de l'eau lustrale, soit on prend l'exemple du mikvé, où on se trempe dans le mikvé et on en ressort purifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rabbi Akiva insiste sur un mot sur lequel je voudrais vraiment qu'on regarde avec approfondissement. Ashrechem Israël, ifnemi atem etarem, mi metaretrem, avichem shebashamayim. Il rappelle que Hachem n'est pas seulement notre roi, il est aussi notre père. Et comme il est notre père, justement, nous ne devons pas perdre espoir du fait que nous n'avons plus le Kohen Gadol et nous n'avons plus le service au Beth Amikdash, qui, je vous le rappelle, on est étudié et prononcé pendant le Moussaf, la Khazara de Moussaf, pendant Yom Kippour, on rappelle. J'invite toute la communauté à étudier ce passage, parce qu'on le lit assez vite en général. On appelle ça la Avoda, Seder HaAvoda. On rappelle tout ce qui se passait à l'époque du Beit HaMikdash. Et on espère que le fait de l'étudier et de le rappeler soit considéré comme si nous l'avions nous-mêmes fait. Mais ce que Rabbi Akiva veut nous dire, c'est qu'il a la capacité de la Nechama. Rabbi Akiva, c'est celui qui, devant la destruction, devant le Khurban, devant le pleur de ses prochains, de ses amis, il sait trouver les mots pour parler d'espoir et rire lorsque eux, ils pleurent. Pourquoi ? D'où il prend cette force ? Eh bien, Rabbi Akiva le dit dans la fin de Makot. De la même façon que Dieu a appliqué ses prédictions négatives qui sont dans tous les prophètes, c'est-à-dire qu'il avait prévu la destruction du temple et elle s'est réalisée, ainsi se réaliseront les prophéties positives, optimistes, qui nous parlent de la rédemption, du retour en Israël et de la reconstruction du Beit HaMikdash. Ce même Rabbi Akiva dit, si vous prenez Kippour comme un moment de mikvé, c'est quoi un mikvé ? C'est donc une réserve d'eau, évidemment avec énormément de règles halakhiques à respecter, dans lesquelles on se trempe et lorsqu'on en sort, on devient pur. C'est quoi le mikvé ? C'est un lieu dans lequel on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre dans de l'eau. Et donc c'est comme si on se coupait de tout ce qui passait à l'extérieur, on se met dans un lieu invivable, et puis en ressortant, on est transformé. Se tremper dans Kippour, c'est se tremper dans un mikvé. C'est un lieu invivable, entre guillemets, Kippour, puisqu'on ne mange pas, on ne boit pas, on ne peut pas vivre comme ça tous les jours. C'est un jour exceptionnel. Celui qui s'y trempe totalement, c'est-à-dire qui s'immerge totalement dans l'ambiance de Kippour, et qui rentre dans une bulle, cette bulle de Kippour, en sortant, il sera purifié, parce qu'il sera régénéré, il sera renouvelé. Il y aura une itrachut. Et pour cela, Rabbi Akiva doit puiser dans toutes les ressources qui sont les siennes de trouver la consolation devant la destruction. C'est-à-dire que la destruction, c'est en fait une déconstruction pour reconstruire. C'est soter al-natimnot. C'est une déconstruction nécessaire, malheureusement, mais qui va amener à la rédemption et à des choses très, très, très positives. Rabbi Akiva voit déjà la reconstruction lorsque d'autres ne voient que la destruction. Vous savez, le Chida nous dit que lorsque Rabbi Akiva et ses amis voient les Shualim, les renards sortir du Bet Kodesh HaKodashim, du lieu où il y avait le Saint des Saints, il nous fait remarquer que le mot Shualim, c'est les mêmes lettres que le mot Yishmaelim. Shualim, c'est le renard, et Yishmaelim, c'est Ismaël, les musulmans, qui ont sur le mont du Temple une mosquée. Et nous espérons tous les jours que à la place de cette mosquée, il y aura un temple, un Beit HaMikdash. Mais nous savons tous que pour le reconstruire, il ne faut pas faire une guerre. Ce n'est pas la guerre qui le fera reconstruire. C'est la préparation intense de chaque juif qui nous permettra de le reconstruire parce que nous le mériterons. Et le jour où il devrait être reconstruit, Dieu interviendra et nous aidera à le faire d'une façon miraculeuse. Ce n'est pas les armes qui reconstruiront le temple sur le mont du temple. Ce sont tout simplement un travail interne très profond que chacun d'entre nous fera. Si le Beit HaMikdash est reconstruit dans le cœur de chacun d'entre nous, il le sera également sur le lieu du temple. Et pour cela, il faut vivre des kippours, c'est-à-dire se tremper dans de l'eau régénératrice, l'eau symbole de pureté, l'eau dans laquelle on ne peut pas vivre, mais qui est dans laquelle une femme, par exemple, se trempe dans le mikvé pour après retrouver son mari. C'est-à-dire que c'est une nouvelle histoire qui commence. Une nouvelle femme, une nouvelle histoire dans le couple qui se passe à chaque fois qu'une femme va au mikvé, chaque fois que le peuple juif va au mikvé qui Yom Kippour, à la sortie de Kippour, des choses nouvelles apparaissent. Donc vous comprenez que si j'en parle de cette Dvar Torah cette année, c'est pas pour rien. Vous êtes tous, comme moi, on va dire spectateurs d'une année de beaucoup de destruction au niveau de l'individu, au niveau du peuple juif, on a vu beaucoup de destruction, beaucoup de morts, beaucoup de catastrophes. Et nous tous, nous attendons que de cette destruction, de cette terrible épreuve, on découvre que c'est encore un des moyens de la reconstruction qui s'appelle venue du Mashiach. On appelle ça les Chevelé Mashiach. Chevelé Mashiach, ça veut dire les contractions comme à une naissance, il y a des contractions, il y a des moments où ça fait très mal, puis après ça s'arrête, puis après ça reprend. Et donc c'était une des contractions sans doute nécessaire, on ne comprend pas pourquoi, mais sans doute nécessaire, pour nous amener vers la reconstruction, la rédemption. Donc en fait, mon vœu aujourd'hui, avec vous tous, c'est d'abord que nous plongions dans Kippour, nous nous émergeons dans Kippour, pendant Kippour, soyons totalement dedans. Essayons de ne pas essayer de glaner ici des informations, ou de parler, ou de se déconcentrer. Soyons concentrés dans Kippour, plongeons-nous dans Kippour. Et à la sortie de Kippour, nous sortirons nous différents, et si on est vraiment tous très différents à la sortie de Kippour, eh bien, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que tous ces événements catastrophiques de cette année ne se renouvellent pas, qu'ils soient derrière nous très bientôt, et que nous trouvions nous tous le sroute de revoir l'endroit du Kodesh HaKodashim, mais sans pleurer, mais en rigolant, en se disant, ça y est, la destruction va ramener la reconstruction. Et ça, je pense que c'est vrai aussi au niveau de l'individu. Lorsque on se rend compte que nos fautes, c'est vraiment souvent de la bêtise, de la paresse, de la médiocrité, et c'est ça le travail du jour de Kippour, c'est de comprendre et de réaliser combien les fautes n'ont pas de sens. Nos faiblesses, ce sont vraiment des choses qui ne correspondent à aucune direction, ça ne construit rien. C'est une démission. Eh bien, lorsqu'on prend conscience du vide de la faute, alors nous nous retournons vers Avinu Shebashem, notre Père qui est dans les cieux. On dit, finalement, on est constitué d'un corps, on est constitué d'une âme. Hachem est notre Père parce qu'il est en fait celui qui a insufflé en nous une âme extraordinaire. Le corps, aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du Kippour, va un petit peu s'effacer. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de le dire que pour toute l'année, on va mettre le corps un petit peu en second plan. Et d'abord, une aspiration spirituelle, une aspiration de l'âme qui doit être parfaite et renforcée. Et j'espère que tous ces événements de tous ces derniers mois vont nous donner la force, même si nous sommes attristés, de rire comme Rabbi Akiva et de trouver la Nechama à travers un jour comme Kippour, où la régénération, le renouvellement de chacun d'entre nous va amener aussi le renouvellement de tout le peuple juif et l'apparition d'excellentes nouvelles, je l'espère, dès la fin de Kippour, pour qu'on ait une année qui soit pour tout le peuple juif, Khatima Tova, une année dans laquelle on sera signé dans le livre de la vie, dans le livre de la Refuah Shlema pour tous les blessés d'Israël, dans le livre, évidemment, de la vie pour tous les soldats, le livre de la vie pour tous les otages, et Bezrat Hashem, j'espère, très très bientôt, si ce Kippour, nous le faisons comme nous le devons le faire, c'est-à-dire avec toute la concentration, eh bien Hachem nous enverra d'excellentes nouvelles et nous pourrons rire avec Rabbi Akiva et dire « Nechamtanu, tu nous as consolés ».
Amen. On va essayer de se mettre effectivement, de s'immerger dans la fête de Kippour. Et puis, avant les fêtes, il reste encore quoi, une heure ou deux. Et tous les Juifs du monde font ça depuis 2000 ans. C'est le moment, c'est juste avant Kippour. Si on a vexé quelqu'un, et on le sait, on l'appelle. Et si quelqu'un est éloigné, parce qu'il n'est pas très religieux, on lui dit bonne fête. Et bien sûr qu'on appelle après tous les autres, la maman. Mais on pense à ça, c'est déjà un petit effort juste avant. Ça fait 2000 ans qu'on fait comme ça. Et je pense que c'est une bonne idée. Je n'ai pas besoin de demander à Rav Guy si j'ai raison. Je suis sûr qu'il va dire oui.
Que la phrase qui est juste avant celle que je viens de citer, je peux vous la lire, c'est toujours la Mishnah, la dernière Mishnah de Yoma. Yom Kippourim mechaper averot sheben adam lachavero. Non, est-ce que ça pardonne? Non. En Yom Kippourim mechaper ad sheiratze chavero. Yom Kippourim ne peut expier la faute qui sont entre un homme et son prochain que si, iratze chavero, si il va demander mechila et si son main à son copain lui pardonne. Ah, donc c'est la phrase qui précède Amar Rabbi Akiva.
Incroyable. Voilà. Très bien. On est déjà immergé.
Voilà.
Amen. Rav Guy, je vous remercie, je vous souhaite un grand et beau Shabbat, qui est un Shabbat des Shabbats, comme on dit. Shabbat Shabbaton, avec cette grande et belle fête de Kippour. Bonsoir à vous, et Shabbat Shalom.
Bonsoir, Shabbat Shalom.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarigi, shalom shokat shoy meh.